Donc, alors, on retrouve la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset moins 5. On va revenir en arrière? Non. Non, ce matin, c'est Pentecôte. C'est la fête de l'Église de Jésus-Christ, hein, Pentecôte. Alors, on va chercher le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 1 à 13. On a déjà lu le livre des Actes des Apôtres ce matin avec Bernard. Et on va continuer maintenant. Ça va, tout le monde entend?
Oui, ça va.
Alors, je fais la lecture. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Verset 11, Crétois, on avait fait la connaissance avec les Crétois lorsqu'on a fait l'épître de Tite, souvenez-vous. Crétois, et les décrétois sont là. Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, je vous propose de regarder les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ensuite la suite des événements et quelques enseignements pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces quatre premiers versets, eh bien, on voit que ils étaient tous ensemble, réunis à le même lieu. Tous ensemble où ils étaient tous d'un commun accord. Même lieu, même moment pour tous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien, que notre texte souligne bien. Au moment où ils ont reçu l'Esprit Saint, ils étaient tous d'un commun accord. Et puis il y a un bruit de vent, impétueux, un souffle, comme le bruit d'une respiration puissante. Et donc il y a des langues, les langues de feu. Alors, il y a du vent, des choses, quelque chose qu'on entend, du bruit de vent. Il n'y a pas le vent qui est là, qui souffle, mais ils entendent le bruit du vent, donc avec les oreilles. Et il y a des langues de feu. Et c'est bien le mot langue, c'est le même mot en grec qu'en français. Et les langues, ils se posent, ou elles s'assoient sur chacun d'eux. Et les voilà donc remplis du Saint-Esprit. Et ils étaient assis. Et donc, on peut imaginer qu'à partir de ce moment-là, ils ne vont pas rester assis, hein, mais ils se lèvent. Et qu'est-ce qu'ils font? Il parle. Il parle dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc, l'arrivée du Saint-Esprit sur les 120 qui étaient réunis là, eh bien, c'est une arrivée qui fait grand bruit. Le bruit, c'est le bruit qui fait accourir vers la chambre haute. Et je ne sais pas où était située la chambre haute dans Jérusalem. Peut-être qu'elle était bien située proche du centre-ville, ou peut-être pas. En tout cas, le phénomène de ce bruit de vent qui soufflait et devait être assez prolongé pour que les gens aient le temps d'accourir pour voir ce qui se passait. En tout cas, c'est quelque chose qui les gens ont entendu, ce bruit ont entendu et qui les a fait venir. Alors, si je peux faire une parenthèse, qu'est-ce qui se passerait si un tel phénomène arrivait aujourd'hui? Est-ce que les gens accouriraient ou est-ce que les gens fuiraient se cacher chez eux? Je ne sais pas, peut-être en ce moment ils préféreraient fuir pour se cacher chez eux. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint savait ce qu'il fallait faire pour rassembler toute cette multitude. Et donc on les voit qu'ils parlent, qu'ils se mettent à parler dans des langues étrangères. Il y a toutes sortes de langues qui sont citées ici, de ces juifs qui venaient pour la fête de Pentecôte, qui venaient des quatre coins de l'Empire romain. Et attendez, excusez-moi. Voilà. Et donc, ils parlent en langue étrangère qui sont des langues connues, des langues compréhensibles. Et donc, tout se passe beaucoup, là, vous avez remarqué, au niveau des oreilles, hein, au niveau de la communication. Une arrivée également qui fait parler d'elle. Qu'est-ce qui se passe au verset 12 et 13? Il y a deux types de réactions. Il y a le questionnement, la première réaction des gens qui sont venus là et qui entendent ces Galiléens parler dans d'autres langues. La première réaction, c'est le questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est ce qui est la réaction positive. Et donc, l'autre réaction, par contre, c'est la réaction plus négative, hein, la moquerie. Et donc, ce doit être ça aussi un enseignement pour nous. Ça doit être un enseignement pour les disciples de cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Nous sommes au chapitre 2 et il reste 26 chapitres dans le livre des Actes. Que va-t-il se passer ensuite? Ça va, est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression d'être tout seul. Allô, allô?
Oui, oui.
Oui, alors, merci. Alors, Bernard l'a dit tout à l'heure, le livre des Actes est aussi appelé le livre des Actes des Apôtres, donc est aussi appelé le livre des Actes du Saint-Esprit. Et pourquoi on dit cela? Eh bien, la mention de l'Esprit Saint se trouve pas moins de 54 fois dans ce livre. C'est plus que partout ailleurs dans la Bible, et largement. Hein. C'est deux fois plus que l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens, c'est celui qui est en deuxième position pour ce qui concerne la mention du Saint-Esprit. Et Dieu voulant, on continuera de voir ensemble dans l'avenir ce qui concerne le Saint-Esprit dans l'Épître aux Corinthiens. Mais ici, dans le livre des Actes, donc c'est plus, beaucoup plus que dans l'Épître aux Corinthiens. Et par rapport à l'Ancien Testament, le livre qui parle le plus de le Saint-Esprit, c'est le livre d'Ézéchiel. Et donc on est à presque trois fois plus de mentions du Saint-Esprit dans le livre des Actes que dans le livre d'Ézéchiel de l'Ancien Testament. Donc, notre livre des Actes va nous enseigner beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. La première remarque que j'ai vue en regardant toutes ces mentions du Saint-Esprit, je les ai balayées les unes après les autres, les 54 mentions. Et dans 24 fois, il est question de communication. Soit le Saint-Esprit parle à ses disciples, ou soit les disciples parlent inspirés par le Saint-Esprit. Ils peuvent prophétiser, où ils peuvent annoncer des messages, hein, ils peuvent, comme l'avait fait Étienne, ou parfois, ils suivent les directives du Saint-Esprit qui leur dit de faire telle ou telle chose, ou bien, d'autres fois encore, ils prophétisent, il y a certains prophètes donc, qui annonçaient des choses qui allaient se passer également. 24 fois sur les 54 fois. Et il y a 14 autres mentions de l'action du Saint-Esprit, en plus de ces 24 qui concernent la communication, il y en a 14 autres. Alors à trois reprises, il est mentionné qu'il vient dans les croyants, qu'il les baptise. C'est Actes chapitre 2 verset 3, donc c'est le passage qui suit. 8-17, dans le cas de Samarie, et 10-44 également de ce qui s'est passé chez Corneille. Il est dit également à deux reprises qu'ils inspirent les Écritures, chapitre 1 verset 16 et 4 verset 5. Le Saint-Esprit est mentionné comme celui qui a inspiré les Écritures. Il donne de la joie également, acte 8-39 et aussi un petit peu 13-52. Il est une puissance pour le témoignage. Chapitre 1, verset 8. Hein, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, a dit Jésus avant de partir. Et il témoigne également de la vérité. Chapitre 5, verset 32. C'est lui qui enlève Philippe quand il était sur le chemin de Gaza à la rencontre de l'Éthiopien pour le transporter à Azoth. Vous connaissez cette histoire, chapitre 8, verset 39. Et on peut également dire qu'il aide l'Église à s'édifier, à marcher dans la crainte de Dieu et à grandir. Chapitre 9, verset 31. Voilà tout ce que fait le Saint-Esprit. Chapitre 13, verset 4. Il envoie en mission Paul et Barnabas. Il lit Paul pour le conduire à Jérusalem. Acte 20, 22. Paul dit qu'il est lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Et également, acte chapitre 20, 28, quand il parle aux anciens d'Éphèse, on apprend que le Saint-Esprit a confié le troupeau de Dieu aux anciens qui sont à Éphèse. Donc voilà différents actes du Saint-Esprit que l'on voit à travers ce livre, avec ce côté focus majoritaire sur la communication. La communication. Et donc, moi, j'ai donné le titre à ce message. Je ne voulais pas exposer. Je l'ai appelé l'Esprit de Pentecôte ou annoncer les merveilles de Dieu. L'Esprit de Pentecôte ou annoncer les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit est-il bavard? En tout cas, il communique beaucoup et il cherche beaucoup à parler. On apprend également que c'est lui avec moi et moi avec lui. Les apôtres, les disciples ne sont pas des zombies, vous savez, des gens qui sont manipulés comme ça. Non, ce ne sont pas des zombies dont le Saint-Esprit aurait pris le contrôle. On voit ça de très belle manière dans le compte rendu du premier concile qui a eu lieu à Jérusalem, à savoir, c'était pour trancher la question, est-ce que les juifs, les non-juifs qui se convertissent, est-ce qu'ils doivent observer la loi de Moïse ou pas? C'était une question qui était importante à trancher, et donc toute l'Église, tous les apôtres se sont réunis à Jérusalem et les anciens, Et donc, ils ont pris la décision donc, de ne pas faire supporter le joug de la loi aux nouveaux disciples venus du paganisme, venus des païens. Et donc, ils écrivent un compte rendu où il est écrit, acte 15, 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Il y a cette très belle formule. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Plus loin, en acte 16, on voit que les apôtres font des projets. Ils veulent aller évangéliser dans tel pays, mais le Saint-Esprit les empêche et il rouvre des portes ailleurs. Également, un autre passage d'acte 5 qui est significatif, mais dans le sens négatif. On voit que Ananias et Saphira ont laissé dans leur cœur la place à Satan. Est-ce qu'ils ont perdu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit s'est retiré d'eux? Ce n'est pas ce que le texte et que l'apôtre dit, mais il dit, par contre, Pierre dit que Satan a envahi leur cœur et ils ont menti à qui? Ils ont menti au Saint-Esprit. Satan a eu toute la place. Donc nous ne sommes pas des robots en tant que chrétiens. Si le Saint-Esprit est libre d'agir comme il le souhaite, et il le fait bien évidemment, nos décisions, nos choix et nos actions pèsent. Elles ont de l'importance. Elles ont de l'importance. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons toute notre liberté, notre aptitude qui sont là. Voilà des trois points que j'ai retenus en balayant, en faisant un survol du livre des actes par rapport à cette question du Saint-Esprit reçu à la Pentecôte. Alors aujourd'hui, comment on reçoit le Saint-Esprit? Ça, c'est une question qui est percutante et qu'il est légitime de se poser. On voit comment le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les croyants, on a des histoires dans le livre des actes, mais comment ça se passe aujourd'hui? La suite de notre texte, Pierre est rempli du Saint-Esprit et il va prêcher un petit peu plus loin. Donc je vais faire la lecture, chapitre 2, versets 37 à 40. Il annonce l'évangile, la mort, la résurrection de Jésus. Et verset 37, qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc les Juifs qui sont là, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Donc on voit trois choses hein, pour les gens qui étaient là, qui ont reçu le Saint-Esprit, tous ces juifs qui s'étaient rassemblés à Pentecôte et qui sont venus écouter les apôtres. Donc ils ont le cœur touché. Donc là on voit qu'il y a une action du Saint-Esprit qui va toucher ces personnes, qui vont toucher ces personnes. Ils ont le cœur touché. Il y a également la repentance. Repentez-vous. Un changement d'attitude, c'est la réponse humaine hein, à l'action du Saint-Esprit. C'est des décisions que l'on doit prendre dans notre cœur. Et puis, il y a question du baptême ici, que j'ai appelé la reconnaître l'Église. Tous ces gens devaient reconnaître l'autorité des apôtres comme étant les dépositaires du message du Messie. Et donc, ils doivent se faire baptiser. Est-ce que le baptême permet de recevoir le Saint-Esprit, bah, si on lit les autres récits, non. On voit que pour les Samaritains, un petit peu plus tard, pour Simon le magicien, ce sont des personnes qui ont cru, qui ont été baptisées, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit avant l'intervention de Pierre. Avant l'intervention de Pierre. Et si on lit dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 25 à 48, Actes 10, 25, donc c'est Pierre qui est envoyé par le Saint-Esprit au-devant de Corneille, dans la maison de Corneille, à Césarée, et Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez fait chercher. » Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, etc., il raconte l'histoire, la vision qu'il a eue, et le fait qu'il devait appeler Pierre, aller le faire rechercher. Et verset 34, ouvrant la bouche, Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et qu'en toute nation, celui qui le crée et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il est paru. Il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins, choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom reçoit le pardon des péchés. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils restèrent, ils les prièrent de rester quelques jours avec eux. Alors on voit ici que chez Corneille, ces païens ont embrassé l'autorité de Pierre. Ils représentaient l'Église, ils avaient tous de très bonnes dispositions, le vif désir de plaire à Dieu, et ils ont cru au message de l'Évangile, et ils ont reçu le Saint-Esprit avant d'avoir été baptisés. On retrouve ici ces trois composantes, des cœurs touchés par le Saint-Esprit, préparés par le Saint-Esprit, une vraie disposition à se tourner vers Dieu, une repentance. Alors, toutes ces personnes étaient vraiment très bien disposées, et donc elles écoutent le message de l'Évangile qui a été transmis par Pierre, l'apôtre, le dépositaire du message de Jésus-Christ, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Donc voilà, à travers le livre des Actes, ce que je vous propose comme condition, comme méthode. Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Dans le livre des Actes, chaque fois qu'il est mention de ces apôtres qui parlent ou qui sont inspirés, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils parlent. Et ils annoncent l'Évangile. Et donc, comment être rempli du Saint-Esprit? Alors, de notre texte de ce matin, juste en restant sur le livre des Actes, chapitre 1, verset 4, on a vu que Jésus avait recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et donc les 120 étaient dans l'attente de la promesse du Seigneur. Ils étaient donc obéissants et ils désiraient ce baptême du Saint-Esprit qui avait été promis. Tous ensemble dans l'attente. Et donc on voit qu'ils manifestent le désir d'être remplis du Saint-Esprit. Alors, est-ce que aujourd'hui nous avons envie d'être remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons envie que le Saint-Esprit vienne bousculer nos vies? Ou est-ce que nous préférons rester dans le confort de notre vie chrétienne, avec ses habitudes, etc.? Cela me suffit, la vie chrétienne que j'ai, je ne demande pas plus et je ne soupire pas après cette plénitude du Saint-Esprit. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut quand même, je pense, le désirer, il faut le souhaiter, il faut le désirer. Autre information de notre texte, donc ils attendaient ce baptême du Saint-Esprit. Chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble, tous d'un commun accord, c'est le même mot. Et donc, pour être rempli du Saint-Esprit, là, il faut être uni. Ce texte nous dit que là, à ce moment-là, ils étaient vraiment unis. Les 120 dans la chambre haute étaient unis, et nous aussi, nous devons être unis comme eux. Alors, ce qui concerne Figeac, vous savez, les conditions de la fête de Noël qu'on a eue à l'automne dernier ont mis en évidence qu'on n'était pas unis surtout. Si on est unis, on n'est pas unis surtout. Il y a des choses qui nous divisent, qui nous séparent. Et bon, c'est pas un secret hein, entre nous, on se l'est dit et on l'a constaté. Je voudrais relire les supplications que Paul a adressées dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10 et suivant. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même esprit, dans une même pensée. Est-ce que nous avons avancé depuis le mois de décembre par rapport à ce constat? Sans doute pas assez, hein, sans doute pas assez. Bon, si on prend l'analogie avec la musique et les instruments de musique, vous savez, les instruments de musique doivent être accordés entre eux et quand on commence un morceau de musique, ben, avant de jouer, les musiciens ils font entendre leurs instruments, chacun écoute l'autre instrument et puis ils se règlent pour qu'ils soient sur les mêmes notes, sur la même tonalité. C'est indispensable. Alors, il me semble que nous avons encore ce travail à faire dans l'Église que de parler, que de discuter, que de nous accorder entre nous, pour avoir une parfaite unité. Je pense qu'on souffre un petit peu de silence. Il y a un proverbe indien qui dit, j'ai trouvé ça, qui mendie en silence meurt de faim en silence. Celui qui mendie en silence meurt de faim en silence. Et le Seigneur nous apprend à venir à lui et à nous humilier tous ensemble et à porter tous ensemble dans la repentance et dans la prière les problèmes que nous avons. Et est-ce que nous le faisons ou est-ce que nous l'avons fait sérieusement? Donc je pense qu'il y a encore des choses à voir pour qu'après nous puissions que notre Église puisse être vraiment remplie du Saint-Esprit. Être unis. Autre chose donc que l'on trouve dans le livre des Actes, c'est que l'Esprit Saint, comme son nom l'indique, il est saint. Et on peut se souvenir de l'affaire d'Ananias et Saphira. Le mensonge vient de Satan et c'est notre ennemi. Et l'esprit de vérité ne cohabite pas avec le mensonge. Il ne peut pas y avoir de plénitude du Saint-Esprit avec du mensonge, même du demi-mensonge, ou bien des choses cachées, des choses dissimulées. L'apôtre Paul déclare, après un long parcours de vie chrétienne devant le Saint-André, en acte 23, 1, « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Avoir une bonne conscience en toute chose devant Dieu. Et voilà quelque chose qui est important. L'Esprit Saint, il est saint. Et il doit y avoir une réaction aussi de crainte dans nos cœurs par rapport à qui il est. Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Je sais que j'ai été très vite, hein. Ça, on pourrait développer ce thème pendant des heures, hein, certainement. Mais je me suis tenu un petit peu au texte d'aujourd'hui et au livre des Actes. Et comment savoir que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Ça, c'est une bonne question également. Comment le savoir? Parce que dans notre texte, c'est surtout le témoignage extérieur qui rende de ça. Ce sont surtout les gens qui écoutent, qui voient, qui disent que cette personne est remplie du Saint-Esprit. Comment on peut le savoir? Alors, en Actes chapitre 2, verset 10, le texte que nous avons lu, hein, tous ces gens, ils s'étonnent. Et ils s'étonnent de quoi? Verset 11, pardon. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Nous les entendons parler des merveilles de Dieu. Et donc, quand nous sommes tous unis, tous ensemble, et quand nous annonçons les merveilles de Dieu, eh bien, on peut dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit à ce moment-là. Quand nous aurons retrouvé la joie de ensemble annoncer l'Évangile, ce jour-là, on pourra dire oui, qu'on est rempli du Saint-Esprit, je pense. Pourquoi? Parce que on déroulera et on vivra et on expérimentera tout ce que ces premiers disciples ont fait. Ils étaient unis, ils étaient ensemble et ils parlaient. Et il parlait poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, mais majoritairement, on le voit dans le livre des Actes, il s'agit de parler de l'Évangile, de parler des merveilles de Dieu. Alors, est-ce que vous voulez répondre « Amen » à tout cela? Si vous voulez, vous le pouvez. Pas de réponse. Bon. En tout cas, moi, je suis arrivé à la fin du message que j'ai préparé ce matin. Alors, je vous laisse la parole maintenant. On va avoir un moment d'annonce maintenant. Peut-être on peut prier pour terminer. Est-ce que, si vous voulez prier, je peux avoir le plaisir de vous entendre maintenant.